Les mystères du Palais Royal, quatrième partie. Chapitre 25. Baiser de Judas. Une semaine s'était écoulée, depuis le jour où nous venons de voir la fille du diable quitter le logis de la mère Moloch pour venir emprunter 10 louis à la juive Déborah. Étrange et monstrueuse infamie. C'était avec l'or de la victime qu'Hébé allait acheter le poison. Il était 10 heures du soir. Pénétrons dans la maison d'Ézéchiel Nathan et dans la chambre à coucher de Déborah. Une lampe d'argent remplie d'une huile parfumée et placée sur une petite table d'ébène, au milieu de la pièce, répandait autour d'elle une lueur pâle, insuffisante pour laisser distinguer parfaitement tout d'abord les objets placés hors de la zone lumineuse. Mais peu à peu, le regard s'habituait à cette clarté indécise et les formes confuses d'abord devenaient distinctes. Sous les lourds rideaux de lampa orientale d'un grand lit à colonnes torses, reposant sur des oreillers d'une blancheur éclatante au milieu des masses de ses longs cheveux noirs, se voyait une figure d'une angélique beauté, mais d'une mortelle pâleur. Cette tête pâle et amaigrie était celle de Déborah. La juive avait les yeux fermés. Un large cercle d'azur se dessinait au-dessous de la frange brune de ses grands cils veloutés. Un de ses bras, placé hors du lit, étendu sur la couverture et découvert jusqu'un peu plus haut que le coude, conservait, malgré son amaigrissement, une forme digne de la statuaire antique. Le sommeil de Déborah semblait paisible. Sa respiration, calme et lente, soulevait son sein à intervalles réguliers. Parfois, une sorte de pli douloureux se dessinait à l'angle de ses lèvres décolorées. Sans doute, quelque rêve pénible la visitait dans son sommeil. 3 personnes se trouvaient en ce moment dans la chambre à coucher de la jeune fille. Ézéchiel Nathan, appuyé contre l'une des colonnes torses qui supportait le baldaquin, tantôt attachait sur le visage de Déborah le regard fixe et ardent de ses yeux remplis d'angoisse, tantôt l'élevait vers le ciel avec une expression désespérée et suppliante. Ce n'était plus alors le grotesque petit vieillard dont nous avons plus d'une fois tracé la silhouette bouffonne. Ce n'était plus l'usurier juif au profil et aux instincts d'oiseau de proie. La douleur l'avait en quelque sorte transfiguré. C'était un père, priant et pleurant auprès du lit d'agonie de sa fille bien-aimée. Nathan était beau de désespoir. Près du chevet de la couche mortuaire, Raoul de la Tremblay, le fiancé de Déborah, affaissé dans un fauteuil à dossier élevé, cachait sa tête dans ses 2 mains. À travers ses doigts crispés, on voyait de temps à autre rouler lentement une grosse larme. Enfin, plus loin et debout auprès de l'embrasure de l'une des fenêtres, la fille du diable tenait d'une main une coupe d'argent et de l'autre une petite cuillère du même métal avec laquelle elle remuait doucement le liquide contenu dans la coupe. Hébé, disons-le, était aussi pâle que la mourante. Cette scène muette se prolongea pendant quelques minutes encore. Puis, Déborah fit un léger mouvement. Ses yeux s'entr'ouvrirent. Sa tête se souleva. Un son vague sortit de ses lèvres. Les mains de Raoul se disjoignirent aussitôt et laissèrent voir son visage baigné de larmes. Nathan quitta la place qu'il occupait et s'élança auprès du chevet de sa fille. Hébé seul conserva la même attitude, tournant à peine la tête du côté du lit.
« Mon père !» articula Déborah d'une voix faible. « Me voici, mon enfant chéri !» répondit le juif. « Je suis là !»« Et Raoul ?» demanda la jeune fille. « Ici, tout près !» dit Nathan pour la seconde fois, car l'émotion empêchait Monsieur de la Tremblay de répondre lui-même.
« Vous êtes là, tous deux ?» poursuivit la jeune fille. « Tous deux, près de moi. Tant mieux. »
Puis sa tête, un instant inclinée, retomba sur l'oreiller. Ce fut au tour de Nathan à interroger.
« Comment te trouves-tu, mon enfant chéri ? » demanda-t-il. « Mieux, mon père. »«
Bien vrai ? » ?»«
Oui, bien vrai. » »«
Tu ne souffres pas ? » ?»«
Non. Tout en moi est si calme qu'il me semble que je n'ai pas de corps. » Je me croirais guérie, sans cette faiblesse toujours croissante qui paralyse mes mouvements et m'empêche presque de parler.
Un gémissement douloureux s'échappa des lèvres contractées de Nathan. Raoul laissa retomber sa tête dans ses mains. C'était ce dernier symptôme dont venait de parler la jeune fille qui les épouvantait plus que tout le reste. Ils auraient mieux aimé la voir souffrir et se plaindre et lutter contre le mal avec toutes les forces de sa jeunesse et de sa vigoureuse organisation que de l'entendre parler de cette faiblesse sans cesse croissante. Le silence recommença. Pendant 2 ou 3 minutes, on put croire que Déborah venait de se rendormir. Mais soudain, elle dit, si bas qu'il fallait l'oreille d'un père ou d'un amant pour l'entendre,
« J'ai soif !»
Raoul aussitôt quitta le fauteuil sur lequel il était assis et s'empressa d'aller chercher la potion. Mais déjà Hébé avait prévu ce mouvement et elle s'approchait du lit, tenant à la main la coupe d'argent. Sans articuler un seul mot, elle passa son bras droit autour des épaules de la malade et la soulevant doucement, elle approcha la coupe de ses lèvres. Déborah but à longs traits.
« Merci, cher Hébé, » dit-elle ensuite d'une voix plus forte. « Ce breuvage est bon. Il me semble, chaque fois que je viens de boire, que la force se revient en moi. »
Hébé ne répondit point. Seulement, elle prit celle des mains de la jeune fille qui se trouvait à découvert sur le lit, et l'appuyant contre ses lèvres, elle la baisa à plusieurs reprises. « Judas, Judas, où étais-tu ? Depuis 8 jours, nous le savons, Hébé, qui voulait à tout prix briser l'amour de Raoul et de Déborah, et qui ne pouvait y parvenir que par un crime, tuait lentement la pauvre juive avec ce poison sans remède fourni par la mère Moloch. Et, chose plus odieuse encore que le meurtre, en la tuant, elle l'embrassait. On frappa doucement à la porte. « C'est sans doute Moïse, » murmura Nathan. Il alla ouvrir en assourdissant sur l'épais tapis le bruit de ses pas. L'homme qui l'introduisit dans la chambre et qu'il venait de nommer Moïse était un vieillard de grande taille. Il s'appuyait en marchant sur une longue et forte canne d'ébène à poignée d'ivoire. Ce Moïse était un médecin juif, le plus célèbre parmi tous ceux de sa religion. Sa renommée était telle que bien souvent de fervents catholiques le faisaient appeler auprès de leur lit de souffrance. Moïse ne refusait point de les visiter, mais il réservait pour ses coreligionnaires les plus précieux trésors de sa science. Chapitre 26. Le docteur Moïse. Le vieux médecin s'avança silencieusement jusqu'auprès du lit. Raoul quitta le fauteuil sur lequel il s'était jusqu'à ce moment abîmé dans sa douleur. C'était la seconde fois depuis le matin que Moïse visitait Déborah. La juive avait les yeux fermés. « Elle dort !» murmura Nathan. La jeune fille souleva ses longues paupières et balbutia.
« Non, mon père, je ne dors pas. »«
Ma fille, » dit alors Moïse, « voulez-vous me donner votre main ?» Déborah fit un effort pour soulever son bras, mais telle était sa faiblesse toujours croissante qu'elle ne put élever sa main jusqu'au niveau de la main ridée et tremblante du vieux docteur. Celui-ci ne fit aucun geste. Rien ne témoigna ce qui se passait en lui à l'aspect de cet effrayant symptôme. Seulement, son front se plissa et un nuage sombre passa sur son visage. Il prit cette main inerte qui était retombée sur la couverture et il interrogea longuement les lentes pulsations de l'artère. Ensuite, il appuya le doigt annulaire de sa main droite sur le côté gauche de la poitrine de Déborah. Puis, cet examen terminé, il s'assit sans prononcer une parole dans le fauteuil qu'avait quitté Raoul. Hébé s'était rapproché du lit. Nathan, monsieur de la Tremblée et la fille du diable se pressaient autour du vieillard et semblaient attendre avec une anxiété dévorante le premier mot qui s'échapperait de ses lèvres. Mais Moïse gardait le silence. Sa tête inclinée se penchait sur sa poitrine. En présence de ce mutisme et de cette attitude, Nathan se décida à interroger.
« Eh bien » demanda-t-il. « Eh bien, Moïse !»
Il ne put formuler une question plus complète. Le vieux médecin releva la tête et fixa sur Ézéchiel ce regard investigateur qui savait lire dans les profondeurs du corps humain les secrets de la vie et de la mort. « L'état de la pauvre enfant est le même, » dit-il ensuite. « Elle ne souffre pas. Il n'y a rien à faire. Rien que de continuer les breuvages que j'ai ordonnés. Puis d'un ton beaucoup plus bas, il poursuivit « La science humaine ne peut rien pour votre fille, Nathan. Il faut prier le Dieu de nos pères, le Dieu qui n'accepta point le sacrifice d'Abraham. Il faut prier et tout attendre de vos prières et de la jeunesse de votre Déborah. « Quoi ? » murmura Nathan. « N'est-il donc plus d'espoir ?»« Je ne dis pas cela. Je crois au contraire que jusqu'au dernier moment, l'espoir existera. Mais alors, pourquoi ne rien essayer ?»« Essayer quoi ? Je vous le répète, la science est en défaut devant ce mal étrange et qui n'est point une maladie. Aucun des organes de Déborah n'est attaqué. Le sang circule, le sommeil est calme, la douleur est absente. Seulement une faiblesse bizarre, inexplicable, tue cette malheureuse enfant. Mais d'une minute à l'autre, la nature peut reprendre ses droits. L'étincelle de la vie peut se ranimer. « Moses, s'écria Nathan, Moses, y comptez-vous ? Moses, ne me trompez-vous pas ?» Le visage du vieux médecin exprima un moment d'hésitation. Cependant, après quelques secondes, il répondit « Non, mon vieil ami, je ne vous trompe pas. Et cet espoir que je vous donne, je vous affirme qu'il est en moi. » Ensuite, Moses se leva et se disposa à quitter la chambre. Trop abattu, trop désespéré pour le reconduire, Nathan ne put que lui serrer la main et lui demander « Quand reviendrez-vous ? » « Demain matin, » répondit le docteur. Et il sortit. Dans ce salon que nous avons décrit jadis et qui précédait la chambre à coucher, il trouva Raoul de la Tremblay qui venait de l'y précéder sans que Nathan eût remarqué sa disparition. « Monsieur, dit le jeune homme au vieillard, après s'être assuré que la porte de la chambre à coucher était bien fermée. « Monsieur, veuillez, je vous en supplie, m'accorder la faveur d'un entretien de quelques instants. » Moses inclina la tête en signe d'adhésion. « Mon gentilhomme, demanda-t-il ensuite, que me voulez-vous ? Parlez. » « Sans doute, fit Raoul, vous savez qui je suis, monsieur. » « Je le sais. Vous n'ignorez pas non plus que Déborah est ma fiancée. Je le sais aussi, mon gentilhomme. Eh bien, monsieur, je viens vous supplier à genoux s'il le faut, de me dire toute la vérité sur l'état de cette jeune fille que j'aime 100 fois plus que ma vie. » « La vérité ? » répéta Moses. « Oui, monsieur, la vérité. » « Mais n'avez-vous donc pas entendu tout à l'heure la réponse que j'ai faite aux questions d'Ézéchiel Nathan ? » « J'ai entendu. » « Eh bien. » Mais, poursuivit Raoul, avant de répondre, vous avez hésité. « C'est une erreur, mon gentilhomme. » « Non, monsieur, c'est une certitude. Encore une fois, je vous le répète, vous avez hésité, et vous avez mieux aimé parler contre votre conscience que d'ôter le dernier espoir à ce pauvre père écrasé de douleur. » Raoul s'interrompit. Moses ne répondit pas. Monsieur de la Tremblay poursuivit. « Mais moi, je suis jeune, je suis fort, j'ai du courage. Aucune douleur ne m'épouvante. On peut broyer mon cœur sans m'arracher un cri. Dites-moi donc la vérité tout entière. Que voulez-vous savoir ? Ce que vous pensez réellement de la situation de Déborah ?» Moses hocha douloureusement la tête. « Elle est perdue ? » s'écria Raoul. « Oui. Sans espoir ? Sans espoir. Rien ne peut la sauver. Il faudrait un miracle qui ne se fera pas. Et combien de semaines lui reste-t-il à vivre ? Ne parlons pas de semaines, murmura Moses. Combien de jours alors ? Ce ne sont pas des jours non plus. Raoul fit un geste de désespoir. Des heures ? Balbutia-t-il. À peine. Des heures ? Combien d'heures ? Une, au moins, deux au plus. Raoul courba la tête sous cet arrêt terrible et sans appel. « Ah !» continua Moses d'une voix sourde et avec une réelle émotion. « Si jeune, si belle, si riche, si forte et si aimée. Et mourir, c'est horrible. Je le sais bien. »« Mais comment ?» demanda Raoul. « Comment, vous, l'un des rois de la science, comment n'avez-vous pas pu la sauver ?»« Et peut-on combattre un mal incompréhensible ?» Un mal mystérieux, qui n'existe pas et qui tue ? Depuis 60 ans, que n'ai-je pas vu ? Eh bien, c'est la première fois que ma science est en défaut. Non pour guérir, mais pour comprendre. Ainsi, Déborah succombe sans que vous sachiez de quoi elle meurt? Je l'avoue. Une chose, une seule, pourrait m'expliquer ce que je ne devine pas.
Une chose?
Oui. Laquelle? À quoi bon vous le dire? Pourquoi me le taire? Eh bien, soit. Mais d'abord, quelles sont les personnes qui, depuis une semaine, se sont approchées de Déborah? Son père, moi et Hébé. Qu'est-ce que cette jeune fille que vous nommez Hébé? La seule amie de Déborah, qu'elle aime autant que Nathan et moi nous pouvons l'aimer. Et à qui, il y a un an ou deux, elle a sauvé la vie, au péril de la sienne. Et Déborah n'a pas d'ennemis? Elle? La pauvre enfant? Qui donc ne l'aimerait? Vous avez pris soin de répondre vous-même, et d'avance, à ce que je vais vous dire. La seule chose, je vous le répète, qui pourrait m'expliquer le mal étrange et mystérieux qui tue votre fiancé, ce serait l'emploi d'un poison subtil, composé de certaines plantes de l'Asie et de l'Arabie. Poison terrible dont je crois être le seul à Paris, et sans doute en France, qui connaissent la composition. Ainsi, demanda Raoul, ce poison dont vous parlez, il attaque la vie dans sa source même, sans blesser aucun des organes. La personne empoisonnée meurt sans souffrir, comme s'éteint une lampe dont l'huile est épuisée jusqu'à la dernière goutte. Et ce poison laisse-t-il des traces? Aucune. Peut-on le combattre? Non, le remède n'existe pas. Raoul sembla réfléchir. C'est impossible, murmura-t-il. Impossible! Impossible! Un crime pareil? Un crime sans but? Et d'ailleurs, qui donc? Impossible, impossible. Je le crois comme vous, répondit Moses. Ce serait folie que d'admettre la possibilité d'un crime. Et maintenant, mon gentilhomme, retournez auprès de votre triste fiancé. Car je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est à peine s'il vous reste le temps de la revoir encore vivante. Raoul rentra dans la chambre mortuaire en murmurant tout bas ces paroles sinistres. Une heure. Au moins deux au plus. Chapitre 27. Le présent de noces. Au moment où Raoul franchit le seuil de la chambre sombre, Nathan et Hébé se tenaient debout, l'un au pied, l'autre au chevet de la couche mortuaire. Le vieillard, au faible bruit de la porte qui s'ouvrait, tourna lentement la tête. Il vit Monsieur de la Tremblay. Un brusque tressaillement secoua son corps et parut galvaniser sa douleur. Il se dirigea vers Raoul et, l'entraînant vers l'une des extrémités de la chambre, il lui dit d'une voix basse et sourde, entrecoupée par l'émotion, tout en attachant sur lui ses regards étincelants du feu sombre de l'inquiétude, « Vous venez de parler à Moses ?»«
Oui, » répondit Monsieur de la Tremblay.
« Vous l'avez interrogé ?»«
Oui. »
Qu'a-t-il répondu?
Ce qu'il vous avait dit à vous-même, il n'y a qu'un instant.
Et pas autre chose?
Pas autre chose.
Bien vrai, je vous le jure. Ainsi, nous pouvons encore espérer?
Nous le pouvons et nous le devons.
Nathan joignit ses deux mains osseuses et décharnées et il les éleva vers le ciel. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit béni, balbutia-t-il. Qu'il me prenne toutes mes richesses, toutes, jusqu'au dernier sou. Qu'il me fasse plus pauvre que le mendiant de la rue, plus misérable, plus méprisé que Job sur son fumier. Mais qu'il me laisse ma fille bien-aimée, l'enfant de mon cœur et de mes entrailles, mon diamant sans tache, ma perle choisie, Déborah.
Après avoir prononcé avec exaltation cette invocation quasi biblique, Nathan prit la main de Raoul et la serra avec force. Ensuite, il retourna auprès du lit de la jeune fille. Moses ne s'était point trompé. Déborah atteignait la dernière période de l'existence. L'heure suprême approchait. Déjà, les battements de son cœur devenaient inégaux. Un engourdissement progressif s'emparait de ses membres. La vie était attaquée dans sa source. L'huile allait manquer à la lampe. Quelques instants encore, sans doute, et la jeune fille, dont les yeux étaient fermés comme pour un paisible sommeil, allait s'endormir pour ne plus se réveiller.
Il n'en fut point ainsi. Déborah ouvrit les yeux, et elle fit un effort pour se soulever. Hébé et Nathan vinrent à son aide. Ils placèrent des oreillers derrière ses épaules, de manière à l'asseoir en quelque sorte dans son lit. « Mon enfant bien-aimé, lui dit alors le vieillard, souhaites-tu quelque chose ? » Déborah répondit d'une voix plus ferme et mieux timbrée qu'on aurait pu l'attendre de son extrême faiblesse.
« Oui, mon père, je souhaite voir cette chambre mieux éclairée. Rien n'est triste comme la lueur pâle de cette petite lampe. »
Hébé s'empressa d'allumer toutes les bougies des candélabres d'argent placés sur la cheminée. Au bout de quelques minutes, une clarté rayonnante éclairait la chambre.
« Ah ! Murmura la mourante. « Cela fait du bien de voir ces lumières. Voyez, mon père, voyez, Raoul, comme tout prend un air de fête et de gaieté. Tout à l'heure, c'était lugubre. »
Des larmes vinrent aux yeux de Monsieur de la Tremblay. Il lui semblait que Déborah venait de faire allumer toutes ses bougies autour de son cercueil.
« Comment te trouves-tu, ma fille ? » demanda Nathan. « Mieux, mon père, beaucoup mieux. Je sens que la force me revient. Seulement j'ai soif. »
Hébé apporta la coupe d'argent et Déborah but avidement. Ensuite, elle reprit.
« Je sens que ma convalescence sera courte. Je ne suis pas bien malade. Quelques jours encore et je pourrai quitter ce lit, quitter cette chambre, revoir le ciel, respirer l'air pur. Quelques jours encore, mon Raoul, et nous serons mariés. Et je serai votre Déborah, mon Seigneur. Raoul, Raoul, êtes-vous heureux à cette pensée, autant que je le suis moi-même ? »
Raoul eut besoin de faire un appel à toute sa force pour comprimer les sanglots qui l'étranglaient. En présence de cette jeune fille qui, les deux pieds déjà dans la tombe, parlait avec confiance, d'amour et de bonheur. Cependant, il parvint à balbutier
« Heureux. Oh oui, bien heureux. » « Raoul, mon beau seigneur,
reprit la juive dont les yeux brillaient d'une joie douce,
une fois mariés, nous quitterons Paris pendant quelque temps, si vous le voulez bien.
Je veux tout ce que vous voulez, Déborah.
Nous irons à la campagne, quelque part où nous trouverons de grands arbres, des fleurs et des oiseaux. Nous nous promènerons dans les bois, ma main dans votre main. Mon cœur battant tout près du vôtre. N'est-ce pas, mon Raoul, que ce sera du bonheur ?
Le jeune homme ne put répondre que par un signe de tête expressif. S'il avait essayé de prononcer une parole, ses sanglots auraient débordé. La juive continua.
« Le jour de notre mariage, vous pourrez être fière de votre Déborah, mon Raoul. Je serai belle, bien belle. Rien ne sera plus simple et plus charmant que ma toilette de mariée. J'aurai une robe blanche, bordée de perles. J'aurai des perles autour de mon cou et encore des perles dans mes cheveux. Aimez-vous les perles, Raoul ? »
Monsieur de la Tremblay fit signe que oui.
« Tant mieux, s'écria Déborah. Moi, je les adore. Je préfère de beaucoup les perles aux diamants. Et vous ? »
« Moi aussi, balbutia Raoul.
Voulez-vous voir les miennes ? »
« De grand cœur. » Déborah se tourna du côté d'Hébé.
« Mon ami, lui dit-elle, apporte sur le lit, je t'en prie, le coffret de mes bijoux. »
La fille du diable obéit aussitôt à cette prière, et elle plaça sur le lit, à côté de la juive, un lourd coffret d'ébène, incrusté d'argent, de corail, de nacre et d'or. Elle en souleva le couvercle, et Déborah, plongeant ses deux mains dans l'intérieur du coffret, les retira pleines de bijoux qu'elle éparpilla sur le lit. C'étaient des bracelets, des colliers, des agrafes, des boucles d'oreilles, des aigrettes, des diadèmes. Les diamants, les rubis, les émeraudes, toutes pierres précieuses scintillaient dans un pêle-mêle étincelant, et sous la clarté des bougies, jetaient des feux de mille couleurs. Au milieu de ce fouillis lumineux, se voyaient des torsades de perles d'une forme admirable et du plus magnifique orient. Chacune de ces perles avait une valeur considérable. Quelques-unes représentaient des sommes énormes. Nous croyons ne point exagérer en disant que le coffret de Déborah renfermait plus d'un million de pierreries.
« Voyez, dit la juive en passant ses doigts amaigris sur chacune des perles d'un collier, comme sur les grains d'un rosaire. Avec cette parure, je serai belle, n'est-ce pas ?
et B tressera mes cheveux en deux longues nattes qu'elle renouera ensuite sur ma tête en façon de diadème, après les avoir enlacées de perles, et ces perles laiteuses feront bien dans mes tresses noires. Ô Raoul, mon Raoul, pourvu que vous me trouviez belle !» Le jeune homme ne put que prendre la main de la mourante, la porter à ses lèvres, la couvrir de baisers ardents, et malgré lui, l'arroser de ses larmes muettes. Déborah le regarda avec surprise. « Mon ami, lui demanda-t-elle, pourquoi donc pleurer ainsi? Qu'avez-vous? Êtes-vous triste? Souffrez-vous? » « Ma bien-aimée, balbutia Raoul, ne savez-vous donc pas que le bonheur fait couler autant de larmes que le chagrin et la souffrance? Seulement, ces larmes-là sont plus douces. » Déborah, complètement rassurée par cette réponse, sourit et s'adressa à Hébé. « Chère Hébé, lui dit-elle, bonne petite sœur, viens ici. » La fille du diable s'approcha du lit. « Écoute, poursuivit Déborah, il faut que tu me rendes un service. » « De toute mon âme. C'est d'ailleurs facile. Voyons. Il s'agit de me donner ton avis. À quel propos ? À propos d'une parure que je veux porter un jour après mon mariage, quand Raoul souhaitera que je paraisse éblouissante. Eh bien ? Eh bien, parmi tous ces bijoux, choisis les bracelets, le collier et le diadème qui te sembleront les plus beaux. » La fille du diable se mit à fouiller dans ces masses de joyaux et de pierres précieuses entassées sur le lit et remplissant encore les deux tiers du coffret. Son examen fut long, minutieux, attentif. Enfin, son choix s'arrêta sur un bandeau, sur un collier et sur deux bracelets. Ces quatre objets, d'une forme artistique ravissante, étaient enrichis de diamants de la plus grande beauté. Ils pouvaient valoir 80 000 livres, tout au moins. Hébé les présenta à Déborah. « Ainsi ? » demanda cette dernière. « Cette parure est celle qui te plaît, entre toutes ?»« Oui, » répondit la jeune fille. « Tu me la choisis comme pour toi ?»« Comme pour moi, » dit encore Hébé. « Eh bien, » répliqua la juive, « garde-la donc, je te la donne. C'est mon présent de noces. »